C'est le dévoilement qui, pour lequel on tente le plus de saboter de l'année, pour savoir, pour avoir les scoops, qui oui. va venir, qui, et les spéculations qui viennent
c'est
avec.
C'est fou, les spéculations autour de ce festival.
Cette semaine, le Festival d'été de Québec a finalement dévoilé presque l'entièreté de sa programmation.
On parle de Mariah Carey, qu'on entendait en entrée de chronique, 21 Pilots, Diplo, Blink 182, Imagine Dragons. Donc, le festival va se dérouler du 4 au 14 juillet. C'est la 52e édition. On a avec nous Louis Bellavance, qui est le directeur de la programmation. Bonjour.
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 Mariah Carey.
Oui.
On se posait la question parce que là, les gens, évidemment, ont appris la programmation. Et ce que j'entends dire le plus souvent, c'est « Elle a juste une toune, c'est une toune de Noël. Elle a plus de voix. Est-elle bon, okay. encore en voix? »
OK. parlons de Mariah.
Oui.
La meilleure question. Elle a juste une toune.
Ça, je sais que c'est pas vrai.
Savez-vous, on va faire des quiz. J'ai plusieurs questions que je pourrais vous poser, mais disons, qui sont les trois artistes de tous les temps qui ont placé le plus de chansons au numéro 1 du palmarès Billboard?
J'aurais tendance à dire Mariah Carey si tu nous poses la question.
J'aurais dit peut-être Michael Jackson aussi?
Non.
Non?
Alors,
okay.
C'est en première position les Beatles. Mm-hmm. Ex aequo au deuxième rang, Elvis Presley, Mariah Carey. Devant Michael Jackson, devant tout le monde à qui vous pouvez penser. Les Rolling Stones, Queen, AC/DC, Whitney Houston et Céline Dion.
Hey boy, just...
Aucune idée.
Ils ont vendu moins d'albums que Mariah Carey.
J'adore.
Elle n'a pas juste une toune.
J'adore le regard que Louis nous jette pendant qu'il raconte.
Et concernant sa voix, c'est son outil de prédilection, évidemment. Elle a 5 octaves. C'est assez unique. C'est presque une anomalie mondiale. Je ne peux pas vous dire qu'elle n'est pas rendue à 4 octaves et demi ou qu'elle n'a pas peut-être des changements comme tout le monde en vieillissant, mais de ce que je sais, et je ne l'ai pas vu personnellement en spectacle, ni récemment, ni jamais d'ailleurs, je m'en confesse, ça va bien en ce moment. Mariah Carey a fait un album l'an dernier qui a été très, très bien reçu. Donc, la période un peu obscure qui remonte à 2 ou 3 ans, et depuis ce temps, elle a fait des shows qui ont été acclamés à Las Vegas. Elle a repris la route aussi. C'est une tournée qui l'amène un petit peu dans le monde, des dates choisies en Europe et tout. Et évidemment, c'est pas quelqu'un qui fait des festivals. C'est pas quelqu'un qu'on s'attend à retrouver dans un festival. Et justement, c'est nous, ça, le festival d'été. On fait des trucs inattendus. On est assurément le seul endroit au monde où vous allez pouvoir voir Slipknot et Mariah Carey à 48 heures d'intervalle.
Il y avait beaucoup, beaucoup de spéculations sur Jennifer Lopez.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des négociations qui se sont faites jusqu'à la dernière minute?
Non, il n'y a pas eu aucune négociation avec le clan de Jennifer Lopez. On a reçu un appel à un moment donné pour dire qu'elle serait disponible dans ces dates-là, mais c'est arrivé très tard dans les négociations, dans l'avancement de la programmation. C'est arrivé en 2019, quelque part comme au début février, je pense. Et on était déjà bien avancé, notamment Mariah Carey était déjà confirmée. On avait couvert le genre d'espace où on voulait aller avec ce type de contenu-là. Ça aurait été une artiste superbe pour le festival, mais je me souviens très bien qu'à ce moment-là, j'essayais de conclure avec 21 Pilots et c'était mon cheval de bataille et c'est ce dont je croyais qu'on avait le plus besoin. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu de discussion sérieuse, disons, avec l'équipe de J-Lo.
La programmation a été annoncée un mois plus tard cette année. J'ai cru comprendre que ça avait été un peu plus complexe. Est-ce que, justement, c'est à cause de 21 Pilots?
C'est un ensemble de facteurs. Disons que c'est une année où l'offre de base n'était pas aussi riche qu'à l'accoutumée. Donc, on a dû faire plus d'efforts, être plus créatifs pour profiter aussi de cette situation-là pour aller chercher des artistes moins attendus, des artistes qui, en théorie, n'étaient pas disponibles. Je pense à 21 Pilots, qui ne devait pas ajouter aucune date à un horaire très, très chargé, pas faire d'autres festivals que Lollapalooza et Boston Calling aux États-Unis. Donc, ça a été une vente difficile. Je pense à Slipknot, dont la tournée nord-américaine débute à la fin du mois de juillet. Et nous, on leur demandait de débuter 2 semaines avant, et ça a l'air de rien 2 semaines. Quand tu es 60 sur la route, c'est pas pratique. Donc, il a fallu qu'on se colle sur la fin de la tournée européenne, et ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de ces dossiers-là qui fait que ça nous a pris plus de temps. Mais au final, la très belle nouvelle dans tout ça, c'est que ça nous donne une affiche qui est vraiment inattendue, inusitée, que les gens n'ont pas vu venir.
Est-ce que j'ai rêvé, ou il y a une journée qui est encore vide?
Ce n'est pas un rêve.
La première journée, le 4?
Le 4, oui. Pourquoi? Le 4, on avait quelque chose. On l'a encore peut-être. C'est devenu un peut-être, mais on s'en allait annoncer la programmation complète. Puis à 24 heures du dévoilement, il y a eu un petit recul dans une négociation qu'on croyait terminée. Puis, il faut ficeler d'autres détails dans ce dossier-là. Est-ce que ça va se conclure comme prévu ou peut-être que d'ici quelques jours, je recommence à zéro avec une date complètement ouverte et je repars à la pêche.
Mais est-ce que c'était une de vos têtes d'affiche?
C'est forcément un nom important. On parle d'un artiste qui va jouer sur la Sainte-Belle, mais c'est pas... Le festival est appuyé ouvertement et solidement sur 21 Pilots, Imagine Dragons, Slipknot, Mariah Carey, Blink 182. C'est le cœur de la programmation. Donc, la soirée du 4 n'a pas une incidence, je dirais, marquée sur l'ensemble de l'œuvre.
C'est le fun parce que vous avez une partie de la carte de Fire Festival, 110 000 $ en moins, puis une île à réserver en plus.
Et voilà, avec du monde qui savent ce qu'ils font.
Les passes ont été mises en vente cette semaine. Est-ce que ça se vend bien?
Oui, ça se vend bien. On a toujours un fort décollage ou à peu près. On sait qu'on vise des grands volumes de ventes. On vise toujours à atteindre autour de 120, 130 000 laissez-passer écoulés. C'est énorme. Mais le laissez-passer est très accessible. C'est 105 $. Donc, ça va bien, ça décolle toujours très fort parce que les gens l'attendent avec impatience. La programmation a été extrêmement bien reçue par sa diversité, je pense, par justement ce côté-là un peu inattendu. Mm-hmm. Beaucoup d'artistes qu'on n'avait pas prévus et les gens pointaient des rumeurs vers certains artistes qui ne sont pas là. Donc, ça a eu un bel effet de surprise puis la réaction est favorable.
Est-ce que vous regardez ce qui se fait ailleurs dans les autres festivals pour composer un peu votre programmation? Je pense aux festivals comme Coachella, Lollapalooza, Glastonbury. Est-ce que ça vous donne des indices sur qui booker?
Oui, c'est sûr qu'on est toujours à l'affût. Les premières affaires qu'on fait, quand il y en a un qui sort, on va voir. On sait déjà, de par les négociations qu'on a avec ces équipes-là, à un moment donné, ils vont nous dire on est en discussion avec Coachella ou encore on a confirmé Coachella, donc on va le savoir un petit peu avant. Et ça nous donne des indices de ces programmations-là qui sortent un petit peu plus tôt que nous. On sait que ça commence au début janvier, il commence à avoir des annonces. Puis jusqu'à maintenant, jusqu'à encore peut-être quelques semaines. Puis après ça, bien, l'ensemble de la saison estivale est couvert. C'est des indices, mais c'est souvent des négociations dans notre cas qui se poursuivent d'année en année. Donc, c'est pas très ponctuel. Je pense à Imagine Dragons qu'on a confirmé un petit peu avant le festival de l'an dernier. Donc, c'est quelque chose que ça fait un an que je traîne dans mon baluchon de confidentialité. Et puis, enfin, on est content de partager ça. Donc, et pourquoi ça s'est fait si tôt? Parce que ça a passé bien près de se faire l'année d'avant. Et puis, à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, on remet puis on se dit, bon, l'année prochaine, ce serait le bon moment. Et là, des fois, ça va basculer.
Est-ce qu'il y a des artistes qui ne pourraient pas faire partie de la programmation du Festival d'été de Québec? Parce qu'on le sait, le public de Québec, on dit toujours que c'est un public particulier. Il y a eu beaucoup de blagues qui se sont faites autour du Centre Vidéotron. On aimait juste les bandes de rock, d'heavy metal.
Le poil rempli.
Le poil, oui. Est-ce que, justement, il y a des têtes d'affiches qui ne pourraient pas concorder avec un festival comme ça?
Je pense qu'on ratisse très large la question. Je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a des particularités de marché qui sont pas nécessairement propres à Québec, mais peut-être propres au fait francophone. Montréal est une ville, je pense, disons, bilingue. Il y a quand même une forte communauté anglophone ici qui fait qu'il y a des courants musicaux qui vont avoir plus de résonance, alors que dans une communauté strictement francophone ou majoritairement francophone, des trucs comme le country, qui n'est pas ça facile non plus à Montréal, mais un peu mieux, ou encore l'Americana, que moi, j'adore. Moi, je suis un gars d'Americana. J'écoute du Wilco, du Dylan, etc.
Mathieu aussi aime bien le country.
Et ces bandes-là fonctionnent pas bien dans un marché comme Québec. Versus le prix, c'est toujours une question qualité-prix. Il fonctionnerait bien à une certaine... je me souviens d'avoir fait une offre pour Wilco, qui est un de mes bands favoris, qui aux États-Unis, un band de Chicago, qui emmène très large. Et moi, je leur demandais de venir jouer à l'Imperial Bell dans une salle de 950 places. Et l'offre était ridicule. Puis l'agent m'avait dit, je dis toujours qu'on peut pas m'insulter avec une offre, mais t'es pas assez proche avec celle-là. Ouais. Puis ça, c'est un phénomène... On peut pas passer à côté. Puis là, ils me disent non, nous, on veut faire des plus gros plateaux. Mais je dis, mais je peux pas, j'ai pas le bassin de fans pour ça. Donc, il y a certains décalages. Mais c'est pas une question de métal. Le hip-hop marche bien. Le pop marche super bien pour nous. Évidemment, tout ce qui est classique rock, ça va bien. Mais il y a des créneaux qui y répondent moins fort.
J'allais te poser justement la question sur le country. Vous avez fait Keith Urban il y a quelques années.
Oui.
Ça a pas été assez concluant pour récidiver ou il y a... peu de noms dans l'univers country américain pour remplir les plans, d'exemple?
Ben, en fait, il y en a beaucoup de noms qui pourraient le faire, puis il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que justement faire un artiste country à chaque année et qui me remplisse le terrain. Il y a des noms qui ont cette envergure-là, mais la réponse en country, justement, n'est pas assez forte. Keith Urban, ça avait bien marché. Pas un triomphe, mais ça avait très bien marché. L'année d'après, ça avait été un peu plus difficile avec Brad Paisley. Encore plus difficile l'année d'après, la troisième année. On a fait 3 ans d'affilée, c'était Lady Antebellum. Et là, je me suis dit, bon, on n'est pas rendu là à ce niveau-là. C'est un terrain de 90 000 personnes. Donc, ces artistes-là sont habitués de remplir des stades. Je pense que cette année, on a eu des discussions, je peux le dire, avec Eric Church.
Qui a annulé son dernier show qui devait être fait à Montréal, d'ailleurs.
Ouais, et qui est un des plus grands noms. Si on parle d'Eric Church, moi, je parle de ça avec l'agent à Nashville, puis je lui dis, j'ai un marché difficile pour le country. Il me dit, si Eric Church marche pas chez vous, oublie le country, ça marchera jamais. Mais quand Eric Church nous demande financièrement les mêmes demandes qu'Imagine Dragons et que nous autres paraissaient erreur, je me dis qu'Imagine Dragons vont faire 2 fois plus de monde. Il y a un rapport qui ne fonctionne pas. Fait que c'est pas qu'on pourrait pas le faire, mais il faudrait avoir pour mission de faire la promotion du country. Ceci dit, ça change. Le new country à Québec, ça va de mieux en mieux. On le voit dans les ondes des radios. On voit qu'il y a un intérêt. Weekend en joue pas mal, puis ils ont beaucoup de succès. On a des très bonnes cotes d'écoute. Allez voir sur Facebook dans les critiques de notre programmation. On entend beaucoup. Mais moi, je leur dis à ce monde-là, on va en refaire la prochaine fois. Vous avez d'affaires à être là, par exemple, et d'être très, très, très nombreux.
Louis, pendant le festival, bon, il y a toutes ces têtes d'affiches qui débarquent comme ça. Est-ce que toi, tu es en coulisses pour t'arranger, pour que tout le monde soit content? Tu fais-tu du service à la clientèle d'après-vente pendant le festival?
C'est dans mon équipe, si on veut. Donc, dans l'équipe du département de la programmation, il y a 3 programmateurs. Je ne programme pas seul. Il y a Catherine et Arnaud avec moi. Puis, il y a aussi toute une équipe, on parle peut-être d'une quarantaine de personnes qui travaillent dans mon équipe, qui sont en arrière-scène, qui amènent les bouteilles d'eau, qui changent la loge de place, qui mettent un tapis au plafond parce qu'ils ont demandé ça. J'ai une équipe de chauffeurs qui sont là pour les amener partout en stand-by, pour aller acheter quelque chose au centre d'achat, les amener jouer au golf. Donc, oui, cette partie-là est dans mon équipe, mais c'est tous ces gens-là qui sont en contact avec les artistes. Les chauffeurs, ils ont un contact extraordinaire avec eux, les gens dans l'arrière-scène. Moi, je les croise des fois. Moi, quand je suis là, c'est parce que ça va bien mal.
Ah, okay.
C'est quoi l'affaire la plus étrange qu'on vous a demandé?
C'est des affaires absurdes de couleurs. La loge est drapée en noir parce que c'est des loges, c'est des trailers. On est dehors dans le champ. On met des draps noirs tout le tour, puis on se fait dire non, ça, nous autres, ça va être blanc. Mais là, c'est des rideaux. Il faut que tu fasses faire des rideaux sur mesure en blanc à 24 heures d'avis. Il faut que tu trouves une couturière qui te fait des rideaux pour draper une loge blanc plutôt que noir. Sinon, catastrophe, il n'y a pas de show.
Mais c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que ça arrive de temps en temps? Vous vous dites, regarde, ça suffit, le niaisage, là.
Oui, il y a des demandes à un moment donné qui sont déraisonnables ou des fois des demandes souvent qui reviennent à moi, des billets de faveur.
Okay.
Là, je me fais dire, l'artiste, ils veulent 150 billets de faveur. Là, je dis, OK.
Il y a de la famille dans le
Rammstein, ils connaissent-tu bien du monde à Sainte-Foy? C'est qui va prendre les 150 billets de faveur? Puis là, je dis, on s'en a donné 50. Puis on sait qu'on va rester pogné avec, de toute façon. Puis là, on va se prendre la tête avec ça. Là, puis ça va devenir des guerres de tranchées. Puis peu importe comment ça serait rendu là, à partir du moment où tu n'as pas embarqué dans la demande, ben ça teinte le reste de la relation un peu, puis là, c'est froid. Mais ça dure 24 heures. Après, ils s'en vont et on ne revoit plus pendant des années.
Puis j'imagine que c'est pas,
mais des fois,
c'est pas les Rolling Stones qui sont comme ça. Ça va être des bands un peu moins gros.
Tu as des petits bands extrêmement exigeants. Tu as des grands bands extrêmement faciles. Mais tu as le contraire aussi. Les Rolling Stones n'étaient pas faciles. Billy Joel était formidable. Était pas de sécurité.
Ah ouais.
Seul, là.
Wow.
Il regardait, je me souviens, c'était Blondie qui ouvrait pour lui. Puis je vois un gars qui a une calotte de baseball sur la tête pendant le show, puis il est sur la scène. Puis là, c'est Billy Joel, ça. Là, je m'approche, puis « Hey, that's great, blablabla. Qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu seul? T'as-tu perdu tes amis? » Tu sais, il était venu voir Blondie comme ça, tout seul, sur le côté de la scène. C'est rare que ça arrive.
Sting?
Sting, je l'ai pas côtoyé. Souvent, je les vois pas du tout.
Donc, t'es pas groupie, c'est bon signe.
Non, c'est ça.
Y en a-tu un maudit déplaisant que tu réengageras jamais? Là? Que tu peux le dire parce que tu le réengageras pas?
Ouais, je peux pas le dire pareil, mais c'est sûr qu'il y en a. Il y a eu des expériences plates que tu te dis, oh mon Dieu, ça vaut pas la peine, la vie est trop courte. Il y en a.
Louis Bellavance, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Ça fait grand plaisir.
On va se laisser d'ailleurs avec The Offspring.